Ce prix est très important pour moi parce que avant d'être nommé dans mes nouvelles fonctions, j'ai travaillé pendant 2 décennies comme officier des droits de l'homme aux Nations Unies. Et en plus de ça, j'ai créé une fondation pour aider les enfants avec la scolarisation. Donc, c'est grâce à mes activités que ce prix m'a été octroyé.
La scolarisation des enfants, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. C'est aussi du vécu, c'est du donnant-donnant pour vous.
Oui, parce que j'ai mon propre histoire. Je suis né dans un village rural au Kenya, où partout il y avait la pauvreté et ma famille était très démunie. Donc, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de difficultés en allant à l'école parce que c'était payant. Mais une dame suédoise qui s'appelle Hildeback m'est venue en aide et elle a payé pour toute ma scolarisation en école primaire et en école secondaire. Et grâce à ça, je suis parti à l'université pour étudier les droits au Kenya, à l'université de Nairobi. Et ensuite, j'ai eu la grande opportunité d'intégrer Harvard University aux États-Unis.
C'est un sacré parcours. Comment est-ce que vous avez rencontré Hildebeck?
Moi, j'étais enfant, je ne savais pas ce qui s'est passé dans ma vie, je ne savais pas qu'on était pauvres, mais ma mère s'est souciée du fait qu'il se peut que je ne finisse pas l'école. Donc, elle est partie chercher de l'aide avec les agences caritatives. Et il y avait une agence suédoise qui s'occupait de la scolarisation des enfants.
Et c'est ça qui vous a mené donc à organiser une agence similaire, une organisation similaire?
Tout à fait, parce que j'ai été très touché par l'action de cette dame inconnue et je ne l'ai pas rencontrée tout au long de ma scolarisation. On s'est contacté par lettre et quand j'ai décroché mon diplôme à Harvard, je me suis dit, il faut vraiment chercher cette femme qui a changé ma vie. Et on ne s'était pas dû de contact, mais heureusement, je l'ai trouvée. Et on s'est rencontrés pour la première fois 35 ans après qu'elle a commencé à m'aider.
C'était comment ce moment?
C'était émouvant parce que c'est quelqu'un qui m'était très important, mais je ne l'avais jamais rencontré. Ensuite, je me suis dit, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, et moi, j'avais eu la chance. Entre-temps, j'ai été embauché par les Nations Unies. Donc, ma vie a complètement changé. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose similaire à ce qu'elle a fait. Donc, j'ai débuté une fondation en son nom. Ça s'appelle Hildeback Education Fund, pour aider les enfants au Kenya qui s'est trouvé dans la situation exacte dans laquelle je me suis trouvé il y a 40 ans.
Vous vous êtes retrouvé à travailler avec les Nations Unies et souvent sur le terrain le long de votre parcours. Votre propre vie a dû influencer la façon dont vous voyez le travail. Ça devait vous donner une perspective particulière. Comment est-ce que cela a informé votre travail au sein de l'ONU?
Mes expériences m'ont donné la passion que j'ai intégré dans mon travail. Parce que pour moi, ce n'est pas justement un travail. Pour moi, c'est un combat pour aider les pauvres. Et je suis très chanceux d'avoir travaillé avec les Nations Unies parce que c'est une organisation qui est dévouée à travailler pour les plus pauvres. Donc, je me suis trouvé dans une organisation qui avait les mêmes objectifs que ma vie personnelle. Donc, vraiment, je suis très content d'être un fonctionnaire des Nations Unies parce que ça me donne l'inspiration pour continuer à faire ce que j'ai fait, même en ma vie personnelle.
Est-ce que votre vécu aide aussi à faire en sorte que les programmes et l'intention des Nations Unies soient le plus adaptés et rapprochés?
Oui. Les objectifs sont les mêmes. Par exemple, les Nations Unies poursuivre les objectifs de développement durable. Et parmi ces objectifs est la promotion de l'éducation, objectif 4. Donc, les Nations Unies font exactement ce que j'ai fait dans ma vie personnelle. Et ça fusionnait. Et c'est pour cette raison que je suis très content que même dans mes nouvelles fonctions, je vais pouvoir promouvoir les objectifs des Nations Unies en même temps de promouvoir les objectifs que je me suis donné personnellement, c'est-à-dire objectif 4.
Et justement, en tant que résident coordonnateur, quelles vont être vos priorités? Vous dites l'éducation, les objectifs de développement durable.
Comme coordonnateur résident, je ne peux pas dicter quels seront les objectifs du pays où je me trouve. Donc, le système comme il est, c'est qu'on va dans un pays, c'est comme Nations Unies, on va dans un pays, on étudie leurs besoins dans les domaines de développement. Et il se trouve que la plupart des pays ont éducation parmi les objectifs. Donc ça, c'est déjà une chose faite. Mais comme coordonnateur résident, je serai dicté par les besoins du Congo. Je vais étudier ça avec les autres agences sur place. Moi, je suis seulement coordonnateur pour voir à ce que les objectifs des agences des Nations Unies ensemble réussissent. Je prends mes fonctions en 1er décembre. Je vais procéder à une période d'écoute pour réellement écouter toutes les couches de la population, en commençant par les gouvernements, les agences qui sont là, mais aussi la société civile, toutes les familles politiques, pour voir quels sont les besoins.
Les peuples autochtones?
Oui, tout le monde. Donc, je ne peux pas arriver là-bas et commencer à travailler tout d'un coup. Je dois étudier, écouter beaucoup avant de me lancer pour me focaliser sur les objectifs qui sont réellement choisis par les pays.